Oui, Seigneur, comme il vient d'être dit à l'instant, viens féconder nos vies. Elles sont fécondes par, bien sûr, le sacrifice de ton Fils, représenté par ce repas que nous venons de prendre, mais elle est aussi fécondée, nos vies sont fécondées par ta parole, que tu renouvelles en nous chaque jour, dès lors que nous prenons la peine d'ouvrir ce livre merveilleux que tu nous as donné. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, soit la lumière qui éclaire ces mots et que cette parole devienne vivante en nous. Nous te louons, Seigneur, pour ta parole. Amen. Nous lirons l'Évangile du jour dans le livre de Matthieu. Évangile de Matthieu au chapitre 14. À partir du verset 22, Matthieu 14, 22 jusqu'à la fin du chapitre, 36. Donc. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renvêlait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi !» N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi. « Pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Ils achevèrent la traversée et arrivèrent dans le pays de Génézareth. Les gens de l'endroit reconnurent Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient afin de toucher seulement la frange de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent pleinement délivrés. Alors voilà, parmi tant de récits de miracles, eh bien, encore un miracle de Jésus. Jésus marche sur l'eau. Par ailleurs, le texte commence par « ensuite ». Vous avez remarqué, le premier mot, c'est « ensuite ». Alors, quand on lit... quand on commence une lecture avec ce mot « ensuite », on se dit « tiens, le mot « ensuite », il fait transition, il fait comme une liaison, donc il doit y avoir quelque chose avant. Ça attire l'attention sur ce qui se passe avant. Ce qui se passe avant, c'est la multiplication des pains. Jésus vient de nourrir toute une foule à partir de 5 pains et 2 poissons. Donc c'est également un récit de miracle. Et puis, le chapitre lui-même que nous avons lu se termine également par, sans qu'on ait le détail, par toutes sortes de miracles, puisqu'il est dit que les gens du pays de Génézareth amènent tous les malades, et il suffit pour ces malades de toucher son vêtement pour qu'ils soient guéris. Alors, ce miracle qui consiste pour Jésus à marcher sur l'eau, j'allais dire au milieu de tous ces autres miracles, il apparaît quand même un petit peu différent, de nature, une nature très différente des autres. En général, les miracles, j'ai failli dire d'ordinaire, mais un miracle peut-il être ordinaire? En général, quand Jésus fait un miracle, il fait du bien, il apporte quelque chose, il est productif. Je ne sais pas si le terme est très, très adapté, mais bon, il guérit le malade, il purifie un lépreux, il rend la vue à un aveugle, il chasse un démon, etc. Donc c'est il apporte quelque chose de bon, il supplée un manque, ou bien, comme dans la multiplication des pains, il nourrit une foule. Parfois même, ce sont des miracles qui peuvent nous paraître un petit peu moins importants, comme par exemple la transformation de l'eau en vin ou noces de Cana. Mais même là, Jésus fait du bien. Il permet à la fête de se prolonger, la fête qui était menacée puisqu'il n'y avait plus que de l'eau à boire. Vous imaginez, catastrophe. Oui, en général, c'est ça. Quand Jésus fait un miracle, c'est vraiment... il comble un manque, il guérit, il soulage une souffrance, une douleur. Et puis là, il marche sur l'eau. Et j'ai presque envie de dire, c'est un miracle inutile. Oui, un miracle qui sert à rien. Un miracle dont on ne voit pas le bénéfice. Au contraire, même quand il arrive sur l'eau, tout ce qu'il arrive à déclencher, c'est la peur chez les disciples qui croient voir un fantôme. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que ce miracle vient faire dans le récit de l'Évangile? Qu'est-ce qu'il nous apporte? Qu'est-ce qu'il nous dit? J'imagine bien que Jésus n'a pas fait là une sorte de numéro de cirque pour le plaisir d'épater ses disciples, pour démontrer je ne sais quelle force, quel pouvoir, quelle capacité. D'ailleurs, Jésus, si vous regardez bien, dans tous ses miracles, il n'est jamais dans la démonstration. Le miracle sert à faire du bien, oui, ou faire ceci, accomplir cela, mais ce n'est jamais pour faire étalage des pouvoirs de Jésus. Alors je me suis dit, mais au fait, existe-t-il dans l'Évangile un autre récit de miracle qui serait également un miracle qui sert à rien, qui n'apporte rien? Alors j'en ai trouvé qu'un, peut-être vous m'en trouverez d'autres, mais dans mon esprit, je vois un petit miracle, une sorte de petit événement surnaturel. C'est lorsque Jésus, sur son chemin, rencontre Philée, et puis c'est l'heure de manger, il a peut-être une petite faim, il cherche des fruits, Philée. Il n'y en a pas, l'arbre est stérile. Et vous connaissez ce passage. Hein. Et donc Jésus va maudire le figuier, à tel point que lorsqu'il revient un peu plus tard avec ses disciples en sens inverse, les disciples lui font remarquer que le figuier est tout desséché, il est mort. Alors là aussi, le vrai miracle tel qu'on connaît Jésus, ça aurait été au contraire, qu'il fasse en sorte que tout d'un coup, en quelques minutes, se mettent à pousser des superbes figues et qu'ils puissent tous se rassasier, manger à leur faim. Mais là, non, Jésus maudit le figuier. Alors, on comprend très facilement dans ce cas-là que Jésus a voulu simplement, d'un fait, d'un acte, faire une parabole, faire un enseignement. Puisque dans ce cas précis, Jésus veut expliquer que tout homme qui ne portera pas de fruit pour Dieu se condamne lui-même à se dessécher et à mourir. Alors je me suis dit, pour ce miracle de Jésus marchant sur l'eau, il doit y avoir la même portée parabolique, si on peut utiliser cet adjectif, c'est-à-dire que Jésus, d'un acte, fait un enseignement, une parabole. Alors quelle est-elle? Donc là, il faut creuser un petit peu, il faut réfléchir. Traditionnellement, dans la Bible, la mer représente le monde. Le monde, alors la mer, c'est un endroit qui a toujours été considéré comme dangereux. Il y a des vagues, il y a du vent, il peut y avoir des monstres marins, il peut y avoir toutes sortes de choses. Ce n'est pas l'élément naturel pour l'homme. Hein. Donc, le monde, la mer représente le monde avec tous ses dangers, tous ses risques. Et précisément, Jésus, il est dit, dès le premier verset, le verset 22, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, mais sans lui. Donc ça, c'est quand même quelque chose à remarquer. Jésus envoie ses disciples, seuls, s'aventurer sur la mer. Bon, c'était le lac, hein, mais un très grand lac, hein, on l'appelait aussi la mer, pour aller sur l'autre rive. Alors certainement, Jésus commence déjà par un acte concret, à expliquer à ses disciples que lorsqu'il ne sera plus là, lorsqu'il sera remonté rejoindre le Père, eh bien les disciples seront, j'allais dire, livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire seront chargés d'eux-mêmes de parcourir le monde pour annoncer l'Évangile en lieu et place de Jésus, reprendre la mission et le flambeau de Jésus. dans le monde avec ses dangers, etc. etc. Donc c'est ce qui se passe, ils partent, et puis évidemment la mer commence à s'agiter, le vent, dit le texte, le vent est contraire, donc ils n'arrivent plus à avancer, ils arrivent à un moment donné où c'est la panique. La panique. Ils commencent à avoir sérieusement peur. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien à ce moment-là, Jésus les rejoint. Donc c'est intéressant de voir que Jésus les envoie seuls, mais quand ça va mal, il est là. Il arrive, il accourt. Vous voyez, il y a des tas de choses à dénicher, j'allais dire, j'ai failli dire dans cette parabole. Ce n'est pas une parabole, c'est un récit vrai. Mais disons qu'on y trouve toute une nourriture. Alors, Jésus, pour les rejoindre, il marche sur l'eau. Alors là, on arrive au cœur de notre miracle. Il marche sur l'eau, eh bien, ça veut bien dire qu'il marche sur le mal et le péché. Il domine, il écrase. Même marcher sur, ça veut bien dire piétiner. C'est un peu comme ça que je le vois. Il piétine parce qu'il est vainqueur du péché, du mal, de la haine, de tout ce qui fait le danger du monde. Donc déjà, voilà une belle, magnifique parabole. Mais vient se greffer là-dessus l'épisode de Simon-Pierre. Alors celui-là, il faut toujours qu'il se fasse remarquer. C'est toujours le premier. Simon-Pierre, c'est un spontané, un impulsif. Comme tous les autres, d'abord il a peur, il croit voir un fantôme. Là-dessus, Jésus les rassure en disant « C'est moi, n'ayez pas peur. » Et Jésus lui répond « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Alors là, on remarque quelque chose d'intéressant, c'est que Pierre, en quelque sorte, il met Jésus à l'épreuve. Vous voyez que c'est quelque chose qui est possible. Tenter Dieu, c'est interdit. Mais mettre Dieu à l'épreuve, non seulement c'est autorisé, mais c'est même recommandé. Bon, c'est un autre chapitre. Il met Jésus à l'épreuve. Si c'est vraiment toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Et Jésus lui dit, chiche. Enfin, il lui dit, viens, un seul mot, viens. Alors Pierre sort de la barque, on connaît la suite, donc on l'a entendu, marche sur l'eau pour aller vers Jésus, et puis évidemment, il ne devait pas savoir nager, il prend peur, il commence à couler, mais tout va bien, tout se finit bien, j'allais dire, puisque Jésus le repêche in extremis, et donc tous les deux ensuite remontent dans la barque. Alors, pour continuer dans l'interprétation de ce texte, comme si c'était vraiment une parabole, qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Qu'est-ce que la barque peut représenter? Alors, très souvent, on voit dans la barque, je crois, l'Église, le corps du Christ, l'ensemble de nous, pas l'Église, telle Église, l'Église avec un grand E, c'est-à-dire la communauté de tous ceux qui croient. L'Église, c'est un petit peu, oui, le refuge dans lequel on peut se lancer dans le monde. Mais c'est pas si sûr que ça. Pour cette parabole, on va y venir un petit peu plus tard. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, moi, je vois autre chose dans cette barque comme interprétation. Parce que je me dis, voilà, Pierre, pour aller vers Jésus, finalement, il a deux épreuves à passer. La première, c'est d'abord de quitter la barque. Sortir de la barque. C'est déjà quelque chose. Mais enfin, vous voyez, tant qu'il est à côté, il se tient là, au bastingage. Donc, deuxième épreuve, pour aller vers Jésus, il faut qu'il lâche le bord de la barque et qu'il s'aventure vers Jésus. Donc là, il n'y a plus de support, on ne peut plus se rattraper. Eh bien, moi, j'y vois le fait que, pour un croyant, tôt ou tard, pour aller vers Jésus, un jour ou l'autre, il faut lâcher nos sécurités, ce qui représente humainement, je veux dire en façon terrestre, notre sécurité, ce que nous pensons être notre sécurité. Vous savez, dans la vie, c'est ce que je disais il y a 15 jours, on construit beaucoup de choses, on élabore beaucoup de choses. Tout ce qu'on fait, peut-être pas tout, mais beaucoup de choses qu'on fait dans la vie, ont pour but de construire une certaine sécurité, d'accumuler, alors parfois des richesses, pourquoi pas de l'argent, ben oui, c'est vrai, quand on a un bon petit compte en banque bien garni, quelque part ça rassure, on se dit, ben je suis à l'abri, hein, c'est le mot qu'on utilise, je suis tranquille, si jamais il y a un problème, ben je pourrais voir venir. Et voyez, tout ça, ce sont des choses terrestres. Bien entendu, je ne dis rien contre la prévoyance. La moindre des sagesses, c'est d'être prévoyant, d'économiser de l'argent, effectivement, d'en mettre de côté. Attention, hein, n'allons pas trop vite en besogne. Mais le problème pour le chrétien, c'est d'y placer sa confiance, d'y placer sa sécurité. Eh bien, au travers de ce texte, je crois que Jésus nous enseigne à être capable, pour aller vers lui, un jour ou l'autre, de lâcher, de quitter ses sécurités, de lâcher cette sécurité. Il y a une vraie parabole de Jésus qui parle d'un homme qui avait accumulé une superbe récolte, il avait du grain à ne plus savoir qu'en faire, et il se dit, réjouis-toi, mon âme, réjouis-toi, tu es à l'abri pour longtemps, tu vas faire abattre les vieux greniers pour en faire de construire des plus grands, et voilà, tu vas pouvoir accumuler tout ton grain et tu en as pour des années tranquille. Il se frotte les mains. Et Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. C'est-à-dire que tout ce qu'il a accumulé ne servit à rien pour démontrer que nos sécurités, nos richesses terrestres, humaines, ne sont qu'illusions par rapport à ce que nous pouvons vivre avec Jésus. Alors donc, il faut que Pierre lâche la barque et aille vers Jésus, lâche sa sécurité pour faire confiance à Jésus, parce qu'il dit bien, si c'est toi, ordonne, il espère bien que c'est Jésus. Il y a quand même déjà un acte de foi, plus qu'une proclamation, plus qu'une confession de foi, il y a un acte de foi. Bon, alors maintenant, si on veut quand même voir dans la barque, le symbole de l'Église. Pourquoi pas? Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à exploiter, et ce serait un peu dans le même sens. Disons que la barque, effectivement, c'est l'Église. Eh bien, l'Église aussi, elle représente une certaine sécurité. Je vais vous prendre un exemple très, très concret. Vous savez qu'à la rentrée, nous attaquons un programme de parcours alpha. C'est-à-dire que, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'ouvrir au monde. Ça ne peut pas être les grands et les foules, hein, mais on va se tourner vers l'extérieur. Et peut-être les uns et les autres avons pu ressentir une certaine, on ne va pas dire une angoisse, mais des petites inquiétudes, de dire, oh là là, qui est-ce qui va venir? On ne contrôle pas. Hein. On a lancé des invitations. Qui est-ce qui va venir? Est-ce qu'il n'y aura pas des troubles faits? Est-ce qu'il n'y aura pas des gens en problème? Est-ce qu'on sera à la hauteur? Est-ce que ces réunions ne vont pas dégénérer? Des petites inquiétudes. Vous voyez, des choses. Et oui, pourquoi? Parce que là, on quitte la barque. Alors, bien sûr, ça va se passer dans la salle du temple, hein, en haut. Mais s'il ne s'agit pas des murs, on sort du cercle immédiat de l'Église, de la communauté, avec toute sa sécurité. Parce que regardez, entre nous, là, on adore le Seigneur, on chante, alléluia, on confesse dans. Mais dès lors qu'on est en contact avec le monde extérieur, c'est déjà plus pareil. C'est déjà plus la même chose. Eh bien, je crois que Jésus nous dit, lâchez un petit peu là, vos sécurités ecclésiastiques, hein, votre petit haut, lâchez-le, oubliez, sortez-en un petit peu, et venez. C'est-à-dire, venez à mon appel, l'appel de Jésus, c'est aller enseigner la parole de Dieu au monde entier. Eh bien, voilà, nous voilà comme Pierre, il faut déjà enjamber le bastingage, sorti. C'est ce que nous faisons en allant inviter les uns les autres, etc. En communiquant notre foi hors de l'Église. Et puis, lâcher le bastingage. Il faut faire quelques pas, pas beaucoup, mais quelques pas, sans avoir de quoi se rattraper. Alors, en conclusion, je dirais, bien sûr que nos inquiétudes, elles peuvent être quand même fondées, on peut se dire... Quel va être le résultat? Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'il y aura du résultat? Est-ce qu'il y aura du répondant? Est-ce que quelque part on aura créé quelque chose? On aura agrandi notre Église? Oui, on peut se poser beaucoup de questions. Mais je me dis aussi en même temps que Pierre, lui, ne s'est pas posé beaucoup de questions. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le disciple de la spontanéité, de l'impulsivité. À l'instant même où il comprend que c'est Jésus, il dit « si c'est toi, ordonne » et hop, voilà. Et il sort de la barque, il y va. Donc déjà, premier élément. Ensuite, bien sûr qu'on peut se dire, avec cette opération cours alpha, on va peut-être boire le bouillon, hein, on va peut-être se louper. Mais regardez bien, Pierre, ben, il a bu la tasse, hein. Il a fait quelques pas, puis il a perdu pied, il a commencé à couler, à mon avis, il a il est passé dessous. Bon, oui, et alors, ça s'est bien terminé, Jésus l'a récupéré. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est que Pierre a certainement vécu une expérience spirituelle entre Jésus et lui que les 11 autres n'auront jamais vécu, parce qu'ils sont restés dans la barque. Faut-il d'autres conclusions? Alors, faut-il avoir peur de boire le bouillon? Enfin, non. Faut-il hésiter? Faut-il se tâter pendant plusieurs années? Non. Moi, je pense que nous devons agir comme Pierre. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas toujours à être impulsif ou spontané. On a besoin aussi de poser les choses et de réfléchir. Mais nous y sommes. Sortons de la barque. Lâchons le bastingage. Allons vers Jésus. Amen.